Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très très importante étude corps, âme et esprit. Le titre pour aujourd'hui sera Le règne des saints des derniers temps. Et nous allons voir la troupe d'Élie. Dans Ésaïe, chapitre 1, verset 26, là, on nous offre une merveilleuse prophétie concernant les temps de la fin. Il est dit, « Et je rétablirai tes juges comme au commencement et tes conseillers comme dans les premiers temps. » Dans l'Ancien Testament, ce mot « juge » veut aussi être traduit par « libérateur » selon des textes hébreux. Par « libérateur ». De fait, le sixième livre de la Bible, celui des juges, relate l'histoire des héros que Dieu suscita pour restaurer Israël et le racheter de la main des ennemis. Dieu a promis d'instaurer une puissante troupe d'élite qui accomplira les œuvres du prophète comme autrefois. Il les fera nourrir par des anges, comme il l'a fait pour Élie. 1 roi, chapitre 19, versets 5 à 8. Il est dit, « Et il se coucha, Élie, et dormit sous le genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Et il regarda, et voici à son chevet, il y avait un gâteau cuit sur les pierres chaudes et une cruche d'eau. Et il mangea et but, et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et il se leva et mangea et but, et il alla avec la force de ses aliments 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. La pensée spirituelle de ses compagnons d'Élie sera renouvelée et les rendra capables de marcher dans cette nouvelle puissance du Saint-Esprit 40 jours et 40 nuits. Le nombre 40 symbolise la tribulation. Ils seront donc fortifiés dans leur esprit par l'ange qui a été désigné pour pouvoir et pourvoir à leur nourriture spirituelle. Cette vie surnaturelle, elle ne sera pas seulement communiquée à leur corps. Non, non, non. Ils recevront aussi une onction spéciale pour pouvoir suivre, premièrement, pour pouvoir entendre Dieu et pouvoir communiquer avec lui, selon 1 roi, chapitre 19, verset 12. Deuxièmement, oindre d'autres ministères, d'autres prophètes comme Élie a moins Élisée, selon 1 roi, chapitre 19, versets 16 et 19, tel que le roi, comme Élie a élu Jéhu, roi sur Israël, et Hatsaël, roi sur la Syrie, selon 1 roi, chapitre 19, versets 15 et 16. Et troisièmement, pouvoir accomplir leur tâche jusqu'à leur enlèvement. Chers amis, Dieu possède toujours de glorieux serviteurs dans les temps difficiles. Ils sont pour lui comme le sommet des montagnes, hors d'atteinte de la lave brûlante qui jaillit des cratères volcaniques en contrebas. Il ressemble aux trois jeunes Hébreux, rappelez-vous, qui marchaient dans la fournaise et en sortirent indemnes, sans même l'odeur de la fumée sur eux. De même, nous traversons des épreuves terribles et ardentes sans dommage, mais, au contraire, nous sommes changés en sa gloire et à son image. Le roi Nebuchadnezzar a dit à Daniel, au verset 3, verset 25, « Voici, je vois quatre hommes déliés, se promenant au milieu du feu, et ils n'ont aucun mal, et l'aspect du quatrième est semblable à un fils de Dieu. » Et les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi qui étaient assemblés ont vu ces hommes et les ont touchés, ils les ont même respirés. Ils ont vu sur leur corps desquels le feu n'avait aucune puissance, car les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et leurs caleçons n'avaient pas changé. Et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Daniel chapitre 3, verset 27. Des hommes célèbres et puissants verront la gloire de l'Éternel sur ses grands serviteurs qui refusent de céder au pouvoir de l'Antéchrist des derniers jours. Samson, c'est le type du libérateur des derniers temps. De même que Samson avait une force surnaturelle lorsque l'Esprit de Dieu descendait sur lui, Juges chapitre 14, verset 6 et chapitre 15, verset 14, il n'existera pas de limite physique quand le Saint-Esprit contrôlera complètement notre corps. Nous pourrons dire avec l'apôtre Paul, « Je peux toutes choses par celui qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4, verset 13. Cependant, cette capacité ne sera donnée à ces oints que lorsque ils abandonneront leur corps pour ne servir et on peut dire n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu, selon Daniel chapitre 3, verset 28. L'Esprit en eux devra donc être en accord avec le Saint-Esprit et avoir cette assurance parfaite que une ressource surnaturelle est offerte pour accomplir, vraiment pour accomplir toute la volonté de Dieu. Daniel a vu cette grande armée se lever pendant la tribulation. Il en rendurait ce témoignage dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 12, où il dit « Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira ou fera des exploits. » Nous avons également l'armée de Joël. Joël les a vus comme étant une armée puissante de l'Éternel, un peuple nombreux et très fort. Devant lui, un feu dévore et une flamme brûle après lui. Joël Joël chapitre 2, versets 2 à 3. Joël, chapitre 2, versets 2 et 3. Ils coururent comme des hommes forts. Ils escaladent la muraille comme des hommes de guerre. Ils marchent chacun dans son chemin et ne changent pas leur sentier. Et ils ne se pressent pas l'un l'autre. Ils marchent chacun dans sa route. Ils se précipitent à travers les traits et ne sont pas blessés. Joël chapitre 2, versets 7 à 8. Donc Dieu prépare et il lève cette armée maintenant. Il est sur le point de sonner de la trompette et de l'appeler. Je voudrais vous donner un petit questionnaire sur ce que nous avons vu ensemble. Premièrement, quelle sorte de gens Dieu va-t-il susciter dans les derniers temps? Deuxièmement, pourquoi sont-ils comparés au prophète Élie? Troisièmement, quel grand exploit Élie a-t-il accompli à la fin de sa vie? Quatrièmement, en quoi les trois jeunes Hébreux ressemblent-ils aux compagnons d'Élie? Cinquièmement, de quelle manière Samson est-il une image de cette armée des temps de la fin? Et sixièmement, mémorisez Philippiens chapitre 4, verset 13. Chers amis, comment pouvons-nous vivre dans l'esprit? Nous avons l'apôtre Pierre. Nul n'a eu plus de mal à échapper au domaine de l'âme que l'apôtre Pierre. Il a passé son temps à faire ou à dire ce qu'il ne fallait pas. Il s'est fait beaucoup de tort à lui-même. Nous attristons toujours le Seigneur et les autres par nos réactions bien trop charnelles, trop prompts. Ce n'est que après avoir compris qu'il devait déposer sa tente, 2 Pierre, 2e épître de Pierre, chapitre 1, verset 14, que l'apôtre Pierre pénétra vraiment dans les hautes sphères de la vie de l'esprit. Il s'est rendu compte que la grâce et la miséricorde lui étaient offertes au même titre que le pardon et le salut. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, nous lisons comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, par lesquels il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Il certifie donc qu'il existe un moyen d'échapper à la vie corrompue du royaume de la chair. L'apôtre Paul expliquait de même aux Colossiens, chapitre 1, verset 2, où il dit « Rendant grâce au Père, qui nous a rendus capables de participer au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » L'apôtre Pierre emploie le terme « échappé » et l'apôtre Paul, il emploie le terme de celui de transporter, transférer, déposer. L'apôtre Pierre et Paul disent tous les deux que cette grâce est le résultat d'un acte divin auquel il nous a prédestinés. Il fait partie de notre héritage éternel. Mais nous avons aussi une part importante à accomplir. Nous devons nous efforcer de coopérer avec le Saint-Esprit dans tout ce qu'il veut faire en nous. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, préparez-vous à affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10, selon la version allemande. Chers amis, quelle part de coopération avec Dieu vous revient-il pour marcher dans l'esprit? Voyons ça de plus près. Premièrement, nous avons la prière et la louange. J'ai donc dit, quelle part de coopération avec Dieu vous revient-il pour marcher vraiment dans l'Esprit Saint? Premièrement, nous avons la prière et la louange. Nous devons donc continuellement être en sainte communion avec Dieu. Commencez dès maintenant à pratiquer la présence de Dieu dans votre vie. Parlez-lui. Ne priez pas seulement. Louez et adorez-le. Passez plus de temps à le louer et à le remercier que simplement à demander des requêtes, et vos prières seront vite exaucées. Deuxièmement, il y a le jeûne. Eh bien oui, le jeûne, il brise les servitudes de votre vie. Veillez à passer du temps dans le jeûne. Le jeûne est efficace parce que il mortifie les œuvres de la chair. C'est l'un des moyens les plus rapides de sortir des chaînes de la chair et d'entrer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Romains 8, verset 21. Car si vous vivez selon la chair, est-il dit, vous mourrez. Mais si par l'Esprit Saint, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains chapitre 8, verset 13. Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises, nous est-il dit dans Galates chapitre 5, verset 29. Troisièmement, cherchez Dieu de tout votre cœur. Ésaïe chapitre 56, verset 6 déclare, cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche. Et notez Jérémie chapitre 29, verset 13, où il est dit, et vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me cherchez de tout votre cœur. Deutéronome chapitre 4, verset 29 promet que en tout lieu, vous chercherez l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Le plus sûr chemin pour trouver Dieu nous est donné dans ce verset, le chercher de tout son cœur et de toute son âme, est-il dit. Oui, on peut chercher le Seigneur de façon simplement charnelle, par cette sorte de curiosité naturelle qui pousse l'homme à en savoir plus sur le mystère de la Trinité. Mais cette voie ne nous permet pas vraiment, vraiment, vraiment de connaître Dieu. Il ne va pas se révéler à un esprit qui est simplement curieux, mais il va se révéler à un cœur qui est sincère, affamé et ouvert. Chers amis, sentez-vous dans votre cœur une faim réelle de mieux connaître Dieu? Y a-t-il une aspiration et un désir profond pour lui? Alors, prenez du temps pour l'invoquer. Prenez du temps pour le chercher et il se laissera assurément trouver. Quatrièmement, ouvrez votre cœur à Dieu. Nous avons tellement été blessés par les êtres les plus chers et les plus proches de nous que nous en sommes arrivés à craindre d'autres expériences douloureuses semblables à celles qui nous sont advenues après avoir mis notre confiance et notre affection en certaines personnes. Donc, nous avons de ce fait, en quelque sorte, blindé notre cœur pour essayer de nous protéger d'expériences encore plus douloureuses. Mais vous pouvez aimer Dieu sans crainte d'être jamais blessé ou déçu par lui. Bien sûr, vous connaîtrez des moments difficiles dans votre vie et j'en ai connu. La vie est ainsi faite. Il y aura des déceptions et des peines. Mais vous ne devez jamais vous laisser aller et en accuser Dieu, jamais. Car Dieu est notre tendre Père et ne peut vous faire que du bien tous les jours de votre vie. En certaines circonstances, il semblera parfois être votre adversaire, mais ce ne sera que pour votre bien. Il essaye seulement de vous empêcher de commettre une action qui pourrait vous détruire. Alors, ôtez cette barrière. Rappelez-vous que le voile du temple a été déchiré en deux. Dans Hébreux, chapitre 10, versets 19 et 20, nous lisons « Ayons donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin vivant et nouveau qu'il nous a consacré à travers le voile, c'est-à-dire à travers sa chair. » Ces deux versets compare la chair, le corps de Jésus, au voile. Le voile déchiré du temple, qui séparait le lieu saint du lieu très saint, symbolisait le corps brisé du Christ et sa mort sur la croix. Saint Matthieus nous dit qu'à la mort de Jésus, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Saint Matthieu, chapitre 27, verset 51. L'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit la chair comme étant un voile de séparation, un obstacle entre l'homme et Dieu. Et ceci s'applique aussi à votre vie. Ce qui vous empêche le plus de vous approcher de Dieu, c'est le voile de votre propre chair, de votre compréhension charnelle, voire votre intellect. Il est vrai que Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Donc, ne craignez pas d'ouvrir votre cœur à Dieu, votre Père. Dites-lui tous vos espoirs, vos craintes, vos souhaits et vos désirs profonds. Il vous fera entrer dans une nouvelle relation avec lui et vous vous demanderez pourquoi vous avez essayé jusqu'alors de vivre par vous-même sans même prendre Dieu pour confident intime. Cinquièmement, accepter d'apprendre. Une des attitudes dominantes les plus désagréables chez les gens est leur habitude de contester. Ils vont contester n'importe quoi. Quoi qu'on leur dise, ils vont manifester leur désaccord. Je crois qu'il s'agit d'un esprit de contradiction. On a même parlé d'un esprit de négation. Ces gens vont jusqu'à se vanter que personne ne peut les influencer d'aucune manière. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont eux-mêmes continuellement influencés par le diable. Gardez toujours un esprit ouvert à l'enseignement. Ne soyez pas des « moi je sais tout ». Ne soyez jamais assez sots pour croire, comme les amis de Job, qu'il réprima du reste en ces termes que vraiment vous êtes les seuls hommes et avec vous mourra la sagesse. Job chapitre 12 verset 2. Il leur a cloué le bec. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Saint Matthieu chapitre 18 verset 3. Il a dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez point au royaume de Dieu. Un enfant ne met jamais en doute ce que vous lui dites. » C'est pour cela qu'il peut apprendre. La raison pour laquelle un enfant peut acquérir parfois même 3 langues étrangères parfaitement avant l'âge de 5 ans est qu'il n'essaye pas du tout de raisonner ces langues. Il se contente d'imiter ce qu'il entend au fur et à mesure que nous grandissons notre intellect. Va s'opposer au processus d'apprentissage. L'oreille ne perçoit pas les divers tons ou les divers sons du chinois et le cerveau est trop rigide pour accepter ce qu'il entend. En outre, il ne peut pas les transmettre à la langue, aux lèvres, aux dents, et à la gorge, il en résulte qu'il est presque impossible à une personne d'un certain âge d'apprendre à parler une nouvelle langue sans accent. Je suis de langue allemande, mais il a fallu quand même un peu de temps pour que je puisse parler le français comme je le fais maintenant. Ça n'est pas venu en claquant des doigts, ne disant pas des mensonges. Si cette expérience est possible sans utiliser le cerveau humain, n'est-il pas dès lors possible aussi d'être enseigné d'esprit saint à esprit humain sans intervention de votre cerveau, de l'intellect tout simplement charnel? Bien après votre mort, vous serez capable de communiquer avec Dieu. Votre cerveau physique sera mort, d'accord, mais votre esprit, lui, sera vivant et il sera capable de tout voir et de tout savoir. Ne pouvons-nous pas laisser Dieu, notre Père, se révéler à la pensée de notre esprit dès maintenant, dans notre vie de chair actuelle? Nous connaîtrons alors, comme nous avons été connus, même lorsque nous cesserons d'être limités par notre connaissance charnelle et notre compréhension humaine. Sixièmement, nous devons nous attendre à Dieu. Quel mal y a-t-il à s'attendre à Dieu? Nous nous moquons aujourd'hui des grands saints d'autrefois qui passaient des heures dans leur chambre de prière à attendre le Saint-Esprit. Nous pensons en quelque sorte être beaucoup plus évolués que eux à cette époque de café instantané dans lequel nous sommes actuellement, de thé instantané, d'entremets instantanés, de langue instantanée. Pour que le travail soit accompli, nous précipitons les candidats à faire leur expérience en leur montrant même comment parler en langue. Eh oui, que Dieu nous aide. Nous leur donnons quelques mots pour démarrer. Et dès qu'ils répètent 3 ou 4 mots, nous crions « Eh bien, vous l'avez reçu, alléluia !» Et nous ajoutons leur nom à la liste de ceux qui ont vécu cette expérience sous notre ministère. Mais regardons un peu la vérité en face. Certains n'ont fait que de bredouiller. Ils continuent toute leur vie à bredouiller et nous nous demandons pourquoi l'Église de Jésus-Christ est dans la confusion. Perdez-vous, chers amis, vraiment votre temps à vous attendre au Seigneur, c'est-à-dire à attendre jusqu'à être revêtu de la puissance d'en haut? Là, il faut parfois beaucoup de temps et de patience. Jésus a dit à ses disciples d'attendre jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Saint Luc chapitre 24 verset 49 et notez Actes des Apôtres chapitre 1 verset 4. C'est parce que nous n'avons jamais appris à attendre le Seigneur que nous nous précipitons immédiatement dans l'action et aboutissons au fiasco. Ésaïe chapitre 26 verset 8 déclare « Oui, dans le chemin de tes jugements, ô Éternel, nous t'avons attendu, le désir de notre âme est après ton nom et après ton souvenir. » Septièmement, nous devons apprendre à communiquer avec Dieu. Parlez à Dieu votre Père. Ne lui présentez pas seulement vos requêtes et tous vos désirs. Ne répondez pas à l'appel par devoir seulement en lui apportant une nouvelle liste de choses que vous voulez qu'il fasse pour vous. Communiquez avec lui comme vous le faites avec un ami intime, peut-être comme vous le faites à votre chère épouse. Si vous vivez seul, parlez-lui à voix haute. Vous n'êtes pas dérangé. Quand vous êtes seul au volant, parlez-lui tout haut, pourquoi pas. La Sainte Bible est remplie d'histoires d'hommes qui ont parlé et qui ont communiqué avec Dieu dans la solitude. Prenons Hénoc ou Hénoch. Il avait une communion si intime avec Dieu le Père qu'un jour, en marchant avec lui, il a franchi un pas de plus qu'il n'était humainement possible. Mais à cause de la présence de Dieu sur lui, il a pu entrer dans la lumière. Et tout à coup, il ne fut plus. Pourquoi ? Car Dieu l'a pris, l'a enlevé. Notez Genèse chapitre 5, verset 24. Huitièmement, nous avons la méditation. L'Église a perdu en quelque sorte l'art de la méditation. Au reste du fait que certaines religions pratiquent la méditation, les chrétiens en ont évidemment peur. Mais certaines religions inacceptables prient pourtant et adorent aussi. Il y a une mauvaise manière de prier, d'adorer et de méditer, c'est vrai. Il y en a aussi une bonne. Grandissons et devenons adultes. De nombreux secrets sont révélés lorsque nous prenons le temps de méditer dans la prière, dans l'intercession. Les grands mystiques spirituels d'autrefois, ils passaient des heures dans la méditation. La Sainte Bible en fait souvent mention, tels que Isaac, David, Josué et l'apôtre Paul étaient parmi les grands hommes de Dieu qui méditaient. Isaac méditait dans les champs. Il est dit, et Isaac était sorti dans les champs pour méditer à l'approche du soir. Et il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux qui venaient. Genèse chapitre 24, verset 63. L'Éternel ordonna à Josué en lui disant que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit. Car alors, tu feras réussir tes voies et alors, tu prospéreras. Josué, chapitre 1, verset 8. Le roi David a écrit, « Tremblez et ne péchez pas. Méditez dans vos cœurs sur votre couche et soyez tranquilles. » À un grand âge comme le mien, on dort pas très bien. Et je reste tranquille dans le lit, la nuit, et je peux méditer dans la pensée, je peux m'approcher du Seigneur. Notez psaume, chapitre 4, verset 4, toujours le psaume, chapitre 1, verset 2, chapitre 19, verset 4, chapitre 63, verset 6, chapitre 104, verset 34, chapitre 119, versets 15 et 23, et versets 48 et verset 78, ainsi que le verset 99, toujours du psaume 119, évidemment. Et nous avons le psaume 143, verset 5. Donc, l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans Timothée chapitre 4, verset 15, « Occupe-toi de ces choses, c'est-à-dire, médite-les, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. » Je répète, afin que tes progrès puissent être évidents à tous. Donc le mot méditer en hébreu signifie réfléchir, étudier et parler. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 15, le terme dénote une action répétée et continue. Dieu nous appelle à continuellement méditer sur lui. Il devrait être l'objet de notre première pensée du matin et de la dernière du soir. Que pensez-vous? Nous ne devrions jamais commencer notre journée par une autre pensée que celle de Jésus-Christ, ni ne devrions-nous abandonner à l'état inconscient du sommeil avec une autre idée que celle du Seigneur. Neuvièmement, nous devrions, si c'était possible, nous séparer de toute activité laïque ou religieuse qui nous éloigne de Dieu. Je répète pour que ce soit pas mal compris, nous devrions, si seulement c'était possible, nous séparer de toute activité laïque ou religieuse qui nous éloigne de Dieu. Mais le Seigneur sait que cela n'est pas toujours possible. Une téléphoniste qui avait trouvé un engagement dans un établissement d'État de téléphonie, elle était environnée de jeunes femmes et de jeunes hommes qui étaient devenus son collègue, leur collègue, mais qui avaient des discussions salaces, des discussions horribles. Et elle a pensé, puisque c'est comme ça, je vais quitter par la foi demain. Et elle a donné sa démission, mais c'était une erreur, car elle aurait dû prier avant pour pouvoir retrouver un travail, parce que le travail aujourd'hui ne se trouve pas au coin de la rue. Elle a mis beaucoup de temps à retrouver un travail, elle a passé par des moments sombres, mais heureusement, le Seigneur l'a relevée à la fin et lui a donné un magnifique travail, où elle a même pu faire des cours qui ont été payés par la clinique pour devenir infirmière. Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Saint Matthieu chapitre 6, verset 33. Les enfants de Dieu sont tellement occupés à travailler pour maintenir leur style de vie, ou à profiter de leurs loisirs, ou encore à courir à diverses réunions religieuses, qu'ils n'ont même plus le temps de s'adonner à la prière et aux exercices spirituels. L'Église ne peut pas, ni ne doit, prendre totalement la place de votre culte personnel avec le Seigneur. Toutefois, ne prenez pas comme excuse de ne pas aller à l'Église, parce que vous voulez rester à la maison et chercher le Seigneur. Vous ne le ferez probablement pas non plus. Et ne manquez pas les réunions vraiment conduites sous l'onction. Vous ne ferez sans doute que rester chez vous et de regarder la télévision ou quelques autres activités sans grande valeur par rapport à ces prédications inspirées. Oui, je parle ici de ces chrétiens qui vivent dans des grandes villes où beaucoup d'activités religieuses sont organisées. Ils pensent qu'ils doivent participer à chaque réunion de chaque église chaque jour de la semaine. Nombre de ces réunions peuvent être creuses, des prédications qui sont uniquement charnelles, et des musiques pop religieuses sentimentales. L'Église a son mode de vedette, d'animateur religieux, même de haut prix, et c'est vraiment ce qu'ils sont, des animateurs il réveille vos émotions seulement au bon moment et vous les applaudissez, mais vous quittez la réunion le cœur vide et déçu. Il n'est pas nécessaire de persévérer dans les activités religieuses charnelles que nous pratiquons pour chercher Dieu quand nous sommes déjà en sa présence. Par ailleurs à ce sujet, j'aimerais vous encourager à consacrer autant de temps à votre culte personnel que à votre programme religieux préféré à la télévision. La meilleure émission télévisée, elle ne peut pas remplacer votre temps de prière à genoux, ni la lecture de votre Bible. Ceci est également vrai pour les CD et les livres. Il est donc temps de vous séparer des bénédictions apparentes afin de rencontrer celui qui bénit. Beaucoup d'entre nous sommes si occupés à courir après les pains et les poissons que nous en oublions celui, qui est la source de tous les pains et des poissons. Il est donc temps de se retrouver seul avec Dieu notre Père, mes bien-aimés enfants de Dieu. Vous avez besoin de passer plus de temps seul. N'attendez pas d'être trop âgé ou en prison, ça peut arriver, pour pratiquer la présence de Dieu. Dixièmement, il est important d'avoir une vie pure. Il est temps pour les chrétiens de revenir à la sainteté. Ce mot sainteté est l'un des plus redoutés et parfois tordus et incompris du vocabulaire chrétien. Le seul fait de l'entendre évoque à notre esprit parfois l'image d'une dame d'âge très avancé, aux cheveux tout blancs. La véritable sainteté, c'est la pureté du cœur, c'est de marcher à l'exemple du Christ. Bien sûr, votre façon de vous habiller et de vivre s'en ressent. Si vous vivez dans le monde, puis vous êtes réellement né de nouveau, et avez été rempli de l'esprit sans que votre garde-robe et votre style de vêtements n'ont soient changés, je peux beaucoup douter de votre sensibilité au Saint-Esprit. C'est pas parce que vous portez une petite culotte qui est tellement courte, et j'en dis pas plus, ou une petite jupette qui est plus que courte. Eh bien, il y a bien des choses que nous faisons, mais nous pratiquons plus dès qu'il commence à vivre en nous sa vie. Dès que commence à vivre en nous la vie de Christ, beaucoup de choses, même notre garde-robe, va changer. Elle va devenir plus sainte. Ne faites rien qui puisse déplaire au Seigneur. Cela n'en vaut pas la peine. Rien en ce monde ne mérite d'être acquis en vendant Jésus. Car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier, s'il gagne euros, millions, 150 millions demain, et qu'il fasse la perte de son âme. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 26. Dieu appelle ses enfants à retrouver la sainteté. Il est temps de l'écouter. Dieu purifie son Église. L'époque des prédicateurs adultères est bientôt révolue. Le temps de la mondanité et de luxe est bientôt terminé. Il y a un prix à payer, c'est vrai. Et mieux vaut le payer maintenant si vous ne voulez pas passer à côté de Dieu. Onzièmement, lire la Bible est très important. Dans l'exercice de mon ministère, je suis choqué de voir combien peu de chrétiens lisent leur Bible. Beaucoup en savent beaucoup plus sur les vedettes de cinéma, les joueurs de basketball, du football ou du rugby que sur les grands personnages de la Bible. Il est donc évident, à les entendre parler, de voir en qui ils trouvent vraiment leur plaisir et leurs intérêts. Revenez un peu à votre Bible. Achetez-en, par exemple, une avec référence et commentaire. Celle que je préfère depuis des années, c'est la Bible de Thomson avec chaîne de référence. Je l'utilise, je pense, depuis plus de 30 ans. Deuxièmement, maîtriser l'intellect. Eh oui, l'un des plus grands ennemis que vous rencontrerez dans cette marche de l'esprit, c'est votre intellect. J'ai pas dit que nous devons tous être des imbéciles, ou comme moi, qui a pu faire que 4 ans d'école primaire, parce que mon père s'est marié 5 fois. Non, l'intellect et l'étude universitaire et même plus haut, c'est très important. L'apôtre Paul dit, par contre, dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, « Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont de la folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. » Oui, il est vrai que votre homme naturel, votre intellect, malgré que vous êtes très très intelligent, ne peut jamais vraiment connaître Dieu. Car Dieu est esprit, et on ne peut le connaître qu'avec notre esprit. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 nous ajoute « Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. » Cela signifie que le chrétien spirituel connaît et comprend les choses de l'Esprit Saint, mais l'homme ordinaire ne peut comprendre l'homme profondément spirituel. Et c'est par cette révélation que l'apôtre Paul a reçu connaissance de ce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Il dit « Et moi-même, quand je suis allé auprès de vous, frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse en vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon de savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse et dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en paroles persuasives de sagesse, mais en démonstration de l'Esprit Saint et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse uniquement des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Or, nous parlons sagesse parmi les parfaits, sagesse toutefois, non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui s'en vont, mais nous parlons de la sagesse cachée, laquelle Dieu avait préordonnée avant les siècles pour notre gloire, qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu, car s'ils l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais selon qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu nous a préparé pour ceux qui l'aiment, mais Dieu nous l'a révélé par son Esprit Saint, car l'Esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'Esprit Saint de Dieu. Mais nous, nous avons reçu non l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit Saint qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données de Dieu, desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées par l'Esprit communiquant des choses spirituelles par des moyens spirituels. Or l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit Saint de Dieu, car elles lui sont folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est donc un fait certain. Lorsque nous vivons dans l'Esprit, nous avons la pensée de Christ. Et cette pensée peut recevoir et donner instruction. Treizièmement, et nous avons la louange et l'adoration. Eh bien, la louange et l'adoration nous élèvent directement dans la présence de Dieu. Elles sont depuis peu seulement en partie restaurées dans l'Église. La plus grande part de notre temps de louange charismatique est souvent soumis à l'horaire. J'ai vu le programme détaillé d'un responsable qui se présente à peu près ainsi. Premièrement, prière d'ouverture par Madame Mary Jones. Deuxièmement, trois chœurs. A, c'est la journée, etc. B, si tu veux le bonheur. C, batte tes mains, peuple chrétien. Expliquez le sens de battre des mains. Troisièmement, collecte par Madame Jean Smith. Elle parle en quelques mots de l'offrande et termine toute embarrassée par la prière, puis elle libelle son chèque car elle doit montrer l'exemple. Quatrièmement, louange et adoration, 15 minutes. Après le quatrième chant, on maintient 5 minutes de silence total et on attend que quelqu'un donne un message en langue avec interprétation ou prophétie. Cinquièmement, annonce. Sixièmement, présentation de l'orateur. Septièmement, appel à la conversion et prière. Oui, le programme, il sonne bien, mais il manque quelque chose. Il est beaucoup trop stéréotypé. Je me demande souvent ce qui arriverait si le Saint-Esprit inspirait quelqu'un à prophétiser juste après le chant. Pardon, après le chant qu'on a dit, c'est la journée, etc. Et là, tout le programme serait bouleversé. Et 14e, on arrive à la fin, nous devons rechercher l'onction. Oui, c'est l'onction qui brise le joug. Ésaïe 10, verset 27. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Notre vie connaît encore de nombreux jougs et servitudes qui ont besoin d'être brisés. Lorsque l'onction puissante descend sur nous, nous sommes libérés. Ces jougs simplement disparaissent dans la présence de la gloire de Dieu. Toutes les inhibitions sont instantanément renversées et nous voyons la salle du roi des rois et du seigneur des seigneurs et nous contemplons le Père, oui, notre Père qui est assis sur son trône d'autorité. Il est assis ainsi sur son trône d'autorité et nous le voyons. Alors nous réalisons, sans l'ombre d'un seul doute, que notre Père seul possède un plein contrôle sur tout ce qui concerne notre vie, parce que nous la lui avons remise et nous savons que notre Père est capable et fidèle pour nous garder dans chaque épreuve de notre vie et dans chaque attaque que nous subissons plus souvent que nous l'aimerions de Satan. Amen. Et chers amis, nous allons terminer maintenant par la prière. Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Saint Jean, chapitre 4, versets 21 et 23. Oui, ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux aux larges visions des champs de la terre qui blanchissent pour la moisson. Ouvre nos oreilles à l'appel des multitudes sans aucune espérance. Ouvre nos cœurs au grand message de la map monde, le site de ton royaume, la terre qui a bu le sang de ton Fils et qui tressaillera d'allégresse un jour bientôt, sous son pas victorieux. Ouvre nos âmes aux inspirations de ton Saint-Esprit qui souffle où il veut des quatre vents et vers les extrémités du monde. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, qui ne sont pas toujours très simples, il est vrai. Et il n'est pas défendu, si vous avez un appareil pour réécouter un CD, cela peut parfois être très bénéfique. Oui, ça peut nous aider souvent à mieux comprendre, parce que nous savons pas tout. Moi le premier, j'apprends encore. Chers amis, Dieu voulant, à demain matin pour la suite, et n'oubliez pas que Dieu vous aime, et il aime surtout vous aider dans vos difficultés, mais même dans vos problème tel que la maladie. Il est celui qui sauve, mais qui également, il est celui qui guérit. À bientôt, à demain matin, Dieu voulant. Au revoir.